Bonjour à tous.
Bonjour, dis-nous tout.
On est bon dans sa présence. Hein. Est-ce que vous avez soif de la parole de Dieu? Amen. C'est tellement une honneur, une joie d'être là ce matin avec vous. Certes, une responsabilité, mais vraiment un honneur de pouvoir prêcher, annoncer la parole de Dieu. Et je voulais en remercier vraiment toute l'équipe pastorale pour leur confiance. Et nous sommes dans une série. La série, c'était quoi? C'était la série Alerte. Alerte, et nous avons vu des messages tellement bons, tellement puissants que nous nous rappeler d'être en alerte, de veiller, veiller sur nos cœurs, veiller sur nos attitudes, veiller sur nos bouches. Veillez sur nos bouches, nos relations, nos foyers. Et parce que Jésus le dit dans Matthieu 25, 13, « Vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Quel message encourageant ce matin, ce soir. Bon, vous inquiétez pas, hein, je dis ce matin, c'est pas grave, d'accord? Vous me pardonnez? Super. Et le texte de ce soir suit le texte des 10 vierges. Et justement, ça parle du retour de Jésus. Et à un moment donné, je me suis posé la question, et ce soir, je nous pose la question, est-ce que je serai prêt? Comment Jésus va me trouver lorsqu'il va revenir? Est-ce que je serai endormi? Est-ce que je serai éveillé? Et ce matin, dis à ton voisin, réveille-toi! Ne te laisse pas endormir! Ne te laisse pas endormir, s'il te plaît! Même s'il fait chaud. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Multiplie ce que tu as ». Et parfois, nous sommes dans une attente que Dieu multiplie dans nos vies. Qui veut que Dieu multiplie dans nos vies? C'est bon. Ceux qui n'ont pas levé la main, repentez-vous tout de suite. Dieu veut multiplier, et c'est vrai. Mais combien Dieu attend aussi que nous multiplions ce qu'il nous a donné? Le texte nous affectionne beaucoup, c'est dans Marc 6, et ça nous parle de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Et on voit les disciples qui vont dire à Jésus, je n'ai que, combien j'ai dit ça à Dieu souvent, je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Je n'ai que ceci, je n'ai que cela. Et qu'est-ce que devant 15 000 personnes? Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend et il remercie le Père pour ses 5 pains et ses 2 poissons. Tu n'as pas besoin de plus, mais regarde et remercie-le pour ce qu'il a mis entre tes mains. Ce matin, on est dans une salle. Est-ce qu'on peut remercier notre Seigneur Jésus-Christ pour la salle qu'il nous prête, pour la salle qu'il nous a donnée pour ce temps? Est-ce qu'on peut le remercier? Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? Lui dire merci parce que tu l'as mis entre nos mains, parce qu'elle est là, elle est avec nous. On est dedans. On n'est pas confortable, c'est pas chez nous, mais gloire à Dieu. Lorsque je néglige ce que j'ai, je ne peux pas être dans la gratitude. L'ingratitude commence lorsque je ne vois pas ce que j'ai et que je regarde seulement à ce que j'ai pas. Et en fait, et quand j'ai cette attitude d'ingratitude, je ne peux pas en fait multiplier. Parce que l'ingratitude m'empêche de multiplier ce qu'il y a dans mes mains parce que je ne le vois pas. Et l'ingratitude me rend aveugle et passif. Et ce matin, que le Saint-Esprit nous aide et nous réveille afin que nous ne soyons pas de ceux qui sont passifs. Ma prière souvent, c'était « Seigneur, s'il te plaît, je veux un miracle, je veux m'attendre à toi, j'ai besoin que tu te manifestes. » Et la réponse de Dieu, « Oui, je veux faire un miracle, mais au travers de toi. » Seigneur, je veux plus. Oh là là, qu'est-ce que je l'ai fait cette prière, qu'est-ce que je l'ai fait. Seigneur, je veux plus de toi. Qui veut plus de Jésus? Ceux qui ne lèvent pas la main, ils comprennent qu'il y a quelque chose après. Il y a un piège. Je veux quelque chose de nouveau, Seigneur. Mais regarde ce que j'ai mis dans tes mains et qu'est-ce que tu fais avec? Je me rappelle, c'était en début de l'année, ça remonte en septembre, début de l'année scolaire, et je priais, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Est-ce que tu as une nouvelle direction? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis là. Dieu m'a dit, je veux pas que tu en fasses plus, je veux que tu fasses mieux. C'était simple, mais je vous assure, ça m'a scotché. Et j'ai dit, mais Seigneur, ok. Et en substance, c'était veille sur ta croissance, veille sur ton développement. Parce que lorsque tu travailles à faire fructifier ce que tu as, tu es en train de semer pour la récolte qui arrive. Pour la récolte qui arrive. Je pensais que j'entendais « Amen ». Pour la récolte qui arrive. parce qu'il y a une récolte qui arrive. Gloire à Dieu pour ma femme. Il faut choisir, frère. On va lire dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Et avant de lire, mon premier point, c'est « Je suis un gestionnaire sur cette terre ». Je suis un gestionnaire sur cette terre. Est-ce que je suis conscient de ce que Dieu m'a donné ? Et qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné ? J'ai beau avoir un joli trésor, vous savez, mais qu'il est beau, il est merveilleux. Mais il a beau être merveilleux, mais s'il est enterré sous terre, il sert à rien. J'ai beau avoir un 4x4, un Audi Q7, là. Mais si je le ferme dans le garage, bah, il sert à rien, en fait. Verset 13. Restez donc vigilants parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. En fait, on doit rester éveillé parce que quand notre maître va revenir, et on devra rendre des comptes pour ce qu'il nous a donné. Et ce passage-là nous parle d'un homme riche, et on va lire verset par verset, enfin pas verset par verset, mais quelques portions. Cet homme-là, c'est un homme riche qui part longtemps pour un voyage et qui donne ses biens à ses serviteurs, à ses trois serviteurs. Chacun selon la possibilité qu'ils avaient, selon la capacité qu'ils avaient. Et il part pour très longtemps. Et après, il revient et il redemande des comptes à ses serviteurs. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc on voit que on va devoir rendre des comptes à notre maître pour ce qu'il nous a donné. Il convoqua ses serviteurs et leur donna toute l'administration de ses biens. Et quand on regarde le maître, on voit la confiance qu'il a envers ses serviteurs. Il ne choisit pas n'importe qui, il choisit ses serviteurs, ses doulos, ses esclaves, ses serviteurs. Et aujourd'hui, et si je suis un serviteur, Dieu m'a confié quelque chose. Si je suis enfant de Dieu, Dieu m'a confié quelque chose. Il a confié l'administration en tous ses biens. Il avait confiance en eux. Il les a pas contrôlés. Une confiance qui ne contrôle pas à chaque jour. Il n'y a pas une caméra sur leur tête pour voir ce qu'ils font. Mais ses serviteurs ont la confiance de leur maître. L'intendance était une pratique courante à l'époque. On voit dans Genèse 39:6 que Potiphar abandonna aux mains de Joseph toute la responsabilité de l'administration, de tout ce qu'il possédait. Avec Joseph en responsabilité, il ne se souciait de rien si ce n'est de sa nourriture. C'est pas mal ça. 1 Pierre chapitre 4 verset 10, chacun de vous, est-ce que tu peux répéter, chacun de vous, a reçu un don particulier, qu'il le mette au service de Dieu comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Le mot charis, c'est le mot grâce. Le mot charisma, c'est le mot don. C'est une attribution spécifique de grâce qui communique une aptitude toute particulière à un individu. Le mot oikonomos, celui qui s'occupe de, qui a la responsabilité de l'administrateur gestionnaire. Et un gestionnaire, c'est quelqu'un qui supervise tout ce qui appartient à l'autre. C'est détenir l'autorité de gérer les biens qui lui ont été confiés. C'est être redevable. Il devra rendre des comptes au propriétaire. Un administrateur est habilité à gérer tout ce qui a été confié sans supervision directe. Est-ce que je réalise que je suis un gestionnaire et non pas un propriétaire? Tout ce que j'ai n'est pas vraiment à moi. Mes enfants, ma carte bleue, bon, elle n'était pas déjà à moi, mais tout ce que j'ai. Je dis souvent aux gens qui viennent à la maison, je dis souvent ça, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que c'est chez moi. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a confié. Rien ne m'appartient véritablement. Je devrais à un moment donné rendre des comptes. Le verset 15 nous dit, Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui a reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Selon les commentateurs bibliques, quand on parle des sacs d'argent, quand on parle, certaines traductions disent les talents, mais en fait, ça représentait 15, un talent, un sac d'argent représentait 15 000 euros. Et pesait 34 kilos. Tout ça pour dire quoi? C'est que c'était quelque chose, c'était important, c'était une grande responsabilité. Tout ça pour nous dire que Dieu nous a donné, nous a confié des dons. Dieu nous a confié. Je suis responsable de ce que Dieu me confie. Je suis responsable de ce que Dieu me confie. Ça peut être des aptitudes naturelles. Ça peut être des aptitudes spirituelles. Ça peut être mes enfants. Ça peut être ma famille. Ça peut être les gens. Ça peut être l'église. Ça peut être plein de choses. Mais je s'en suis responsable. Et le mot grec oikonomos, en fait, qui veut dire administrateur, il y a un mot qui est proche, c'est le mot oikos. Dans oikonomos, il y a oikos, qui signifie maison. C'est dans une maison, premièrement, que Dieu nous appelle d'abord à faire fructifier ce qu'il nous a donné. Premièrement. Est-ce que je considère les gens de ma maison, et pasteur Joël en a parlé et a prêché dessus, est-ce que je considère les gens de ma maison comme des dons? Non pas seulement à prendre soin, mais à développer, à investir, à multiplier, à semer. Car je suis responsable premièrement des gens de ma maison, les dons que Dieu m'a placés dans ma maison, dans mon foyer. Et un des exemples que j'aime partager, c'est mon fils aime chanter Noah, pardon, lequel, parce que j'en ai deux. Il aime composer des chants. Un jour, il nous a dit, maman, papa, moi, je veux composer des chants pour Jésus. Waouh. J'ai dit, ok, on y va. Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'accompagner dans ça? Et une chose qu'on ne fait pas tout bien, ok? Mais une chose qu'on essaye de faire, c'est avoir à la maison une atmosphère de louange, d'adoration, et que de temps en temps, comme ça, il sort, mais ça lui donne une atmosphère pour commencer à libérer ce que lui-même veut libérer, à libérer ce qu'il a reçu. Et il nous a fait carrément un chant, et je vous le chanterai pas, mais dans la louange, tout est bien. Waouh, c'est juste génial. C'est juste énorme quand on commence à semer dans la maison, dans les gens que Dieu nous a donnés, dans notre famille, quand on commence à investir, car je suis responsable de leur développement. Je suis responsable. Et à la lumière du Nouveau Testament, je crois que c'est important, et ce matin, ce soir, la lumière du Nouveau Testament, même si la première application des talents, c'est les finances dans ce texte, mais on peut dire que ces talents représentent aussi les dons, les charismas que Dieu nous a donnés. Dieu nous a confié des dons, des capacités. Et tout dans notre vie, tout est don dans notre vie. Ma vie est un don, ta vie est un don. Ta vie est un don, tout est un don, et que je prenne soin et que je multiplie tout ce que Dieu m'a donné. Et j'aimerais qu'on focalise un peu plus précisément sur les charismas, c'est-à-dire ce que Dieu, les capacités que Dieu m'a données. Sachant que ça englobe beaucoup plus que ça, mais on va focaliser un peu plus sur ça ce soir. Dans Romains, il est écrit, en effet, de même, nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et tous les membres n'ont pas la même fonction. De même, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Chacun pour sa part, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Nous avons des dons différents pour la grâce selon la grâce qui nous a été accordée. Et merci Seigneur qu'on ne soit pas pareil. Gloire à Dieu. les dons de Dieu, les charismas sont des dons de Dieu, des capacités, des grâces, des aptitudes que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Et je sais. Il y a des dons, on a l'impression que oui, il y a des dons plus importants que d'autres, que certains ont des dons, d'autres pas. Mais chaque don est lié à notre appel, à ce que Dieu a déclaré sur nos vies, à ce que Dieu a préparé d'avance avant la fondation du monde. Il y a un mensonge, je n'ai pas de don. Quel mensonge incroyable qu'il faut refuser. La Bible est claire à ce sujet. Chacun de nous a reçu. Il n'a pas dit chaque responsable, chaque pasteur. Il n'a pas dit chaque ministère. Il n'a pas dit chaque conducteur de louange. Mais il a dit chacun d'entre nous. Si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, tu as reçu un don de Dieu. Et notamment le don du Saint-Esprit. Et le don, c'est pas quelque chose forcément qui est visible, qu'on voit toujours. Est-ce que c'est vraiment des fois on a des façons de penser, chanter sur une estrade, prêcher sur une estrade, on a l'impression que c'est la norme. Ah, lui, il a reçu un don parce qu'il prêche. Lui, il a reçu un don parce qu'il chante sur une estrade. C'est vrai. Mais pour Dieu, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un don plus important que l'autre. Il y a des fonctions. Il y a des fonctions liées à notre appel. Et refuse de croire que cette pensée qui est véhiculée, que ceux qui sont sur l'estrade sont élus de Dieu et ils ont un don particulier et moi, j'en ai pas. C'est intéressant de voir que chaque serviteur, enfin les deux premiers serviteurs, ont reçu la même récompense. Pourtant, parce qu'ils ont été fidèles, mais ils ont reçu la même récompense. Pourtant, ils n'avaient pas les mêmes dons. Certains dons sont naturels, certains dons sont spirituels, certains dons sont surnaturels. Mais en fait, même les dons naturels que Dieu t'a donnés, en fait, Dieu veut les activer pour qu'ils soient surnaturels. Même les dons naturels que tu as et que tu as l'impression, ah, comparé à lui, oh là là, mais non, mais en fait, Dieu veut activer ça dans ta vie. Alors que le Saint-Esprit te touche, alors que le Saint-Esprit me touche, ça devient plus simplement, il est gentil, oh, il est sympa. Mais il y a une dimension qui est surnaturelle qui vient sur nous. Charisma, c'est l'équipement qui va nous aider à accomplir les projets de Dieu en collaboration avec le Saint-Esprit. En collaboration avec le Saint-Esprit. C'est tellement facile hein, de trouver les dons qu'on n'a pas. Hein. C'est tellement évident. Mais pourtant, et on a tous des dons qu'on n'a pas, et c'est tellement facile de les trouver. Et moi, c'est clair que c'est très simple. Moi, je ne suis pas doué pour danser. D'accord ? Au plus grand regret de ma femme. Je ne suis pas doué pour faire la cuisine. Mais je suis doué pour goûter les plats qu'elle me fait quand même. Parfois, on aimerait avoir certains dons, mais on ne les a pas. Mais est-ce qu'on réalise? On réalise ce que Dieu a mis en moi, ce que Dieu a mis en nous, la petite graine qu'il a mis, ce qu'il a déposé, même si on pense que c'est insignifiant. Dieu veut la multiplier et Dieu veut que nous la multiplions. Alors qu'on voit que multiplier ce que Dieu nous a donné, c'est réaliser que nous sommes un gestionnaire sur cette terre, mais un gestionnaire aussi est un gestionnaire fidèle. Après, il faut que je comprenne que Dieu m'a donné des dons, des capacités, et que j'en suis gestionnaire, mais il faut que je fasse les choses avec les intérêts aussi de Dieu, les intentions du propriétaire. Un bon gestionnaire est un gestionnaire fidèle. Je ne suis pas appelé simplement à gérer ce que Dieu m'a donné, mais à le gérer fidèlement. à le gérer fidèlement. Oh, bon et fidèle serviteur, combien on aimerait entendre ça lorsqu'on se retrouve devant le trône de Dieu, bon et fidèle serviteur. Trois personnes. Bon, vous connaissez la définition de la fidélité, inébranlable, constant, fiable, sérieux, loyal, dévoué, honnête. Super. Et pendant longtemps, je pensais que la fidélité, c'était ça. Mais Dieu ne mesure pas le succès comme nous. La fidélité selon Dieu n'est pas seulement... Merci ma chérie. La fidélité selon Dieu n'est pas seulement de prendre soin... n'est pas seulement de garder ce que Dieu nous a confié, mais de faire fructifier ce que Dieu nous a confié. La fidélité de Dieu, ce n'est pas seulement la constance, mais c'est aussi la multiplication de ce que j'ai reçu. Le mandat de l'Église n'est pas seulement de prendre soin des uns des autres. Et combien j'aime prendre soin des gens, combien j'aime passer du temps avec les gens. Mais le mandat de l'Église, c'est pas seulement de prendre soin des gens, mais le mandat de l'Église, c'est de faire des disciples. Le mandat de l'Église, c'est de faire des disciples, c'est de la multiplication. Lorsque il y a une mère au foyer qui va commencer à multiplier son efficacité, commencer à avoir un impact dans la vie de ses enfants, commencer à investir, commencer à multiplier ce qu'elle a reçu, recevra la même éloge que l'homme d'affaires qui va multiplier son entreprise, qui va la développer pour le royaume de Dieu, pour avoir un impact, pour faire des disciples. Son maître lui répondit, serviteur, le verset 26, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Le danger de la paresse spirituelle. La paresse spirituelle produit l'infidélité. Tu me diras, jusqu'à là, je t'aimais bien, mais là, tu commences à... Nous constatons que... Ce serviteur a gardé ce que Dieu lui avait donné, le talent qu'il lui avait donné, mais il n'a pas multiplié. Oui, mais je comprends pas, il a gardé quand même. Mais non, Dieu voulait qu'il le multiplie. L'intention du maître, c'était qu'il le multiplie. C'était qu'il multiplie ce qu'il lui a donné. C'était qu'il travaille avec ce qu'il lui a donné. Mais il n'a pas multiplié. Et on voit la raison. La raison, il nous le dit un peu plus loin, c'est qu'il avait, il avait une fausse conception de son maître. Il avait une perception de Dieu erronée. Il avait peur. On peut prendre directement le texte. Je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu la semence. Alors j'ai pris peur. Je suis allé me cacher. Tu allais cacher ton argent dans la terre. Voilà ce qui t'appartient. Ce serviteur-là, il avait une image erroné de son maître. J'ai eu peur. Je savais que tu étais un homme dur. Et lorsqu'on perçoit Dieu de façon erronée, on peut tomber très facilement dans la peur. La peur nous empêche la multiplication. La crainte, la timidité et l'intimidation bloquent la manifestation du don que Dieu nous a confié. Et combien de fois, parce qu'on a peur, on ne fait pas les choses? Paresseux, en grec, c'est okneros, docteur Joël, signifie remettre à plus tard, lent, indolent, paresseux, fainéant, relatif au fait de se dérober ou d'hésiter à s'engager dans quelque chose qui vaut la peine et qui peut impliquer un manque d'ambition. Le pasteur Rick Renner va dire, ce mot explique que ce mot se réfère à une personne léthargique, apathique, indolente et désabusée. On peut dire que cette personne craintive est une personne craintive qui hésite à s'engager dans une activité, qui hésite de faire quelque chose. Et en fait, ce serviteur-là n'a pas hésité seulement une fois, deux fois, mais a hésité tout le long de son intendance. Tout le long de son intendance, tout le long de sa gestion, il a hésité au point où il n'a rien fait. Seigneur, c'est trop difficile. Je ne vais pas y arriver. Je préfère que les autres le fassent. Ils feront bien mieux que moi. Je préfère laisser les autres faire, qu'ils prennent les initiatives. Je ne préfère pas prendre l'initiative de peur que ça me retombe dessus. Et ça t'a déjà arrivé de vouloir faire quelque chose, de savoir que même c'est Dieu qui te demandait, et tu pries, et tu as l'impression que dans la prière, cette chose-là revient, mais tu hésites parce que tu as peur de pas y arriver. Et puis après, quelqu'un le fait après toi, et tu dis, ah punaise, j'aurais dû le faire en fait. Ça m'est arrivé un million de fois. Le serviteur mauvais dont parle Jésus, à hésiter. Ne laisse pas la peur de l'échec t'empêcher d'obéir à Dieu. Ne laisse pas la peur de l'échec de faire ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Ne laisse pas la peur de l'échec t'emprisonner et emprisonner le don que Dieu a placé en toi. Ne laisse pas la peur de l'échec t'empêcher de libérer tout ce que Dieu a mis en toi. Parce que devant le trône de Dieu, est-ce que Dieu va me dire, c'est ça la question, qu'est-ce que Dieu va me dire, serviteur fidèle, serviteur paresseux? Le mot méchant ou mauvais peut sembler fort, mais Jésus ne prédit rien à la légère. C'est le mot méchant, c'est le mot grec poneros, et cela implique une faute qui par conséquent te rend incompétent. Pire, qui par conséquent te rend incompétent. Et c'est fou parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait en nous? Il nous rend compétents. Le Saint-Esprit nous rend compétents. Donc en fait, il est en train de dire, tu as fait une faute grave. Et cette faute grave te rend inefficace et te rend infidèle. La peur nous rend le don inefficace, mais aussi me rend infidèle devant Dieu, incompétent. De Timothée 1, 7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, d'intimidation, mais un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. Un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. Répète-toi-le, un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. Il te fallait, verset 27, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-le donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui en a 10. En effet, on donnera à celui qui sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Ton ingratitude, mon ingratitude, peut m'amener à perdre même ce que Dieu m'a donné. Mon ingratitude qui est l'expression en fait de mon infidélité dans ce que Dieu me confie peut m'amener à perdre ce que Dieu m'a donné. Dieu ne fera pas à notre place ce qu'il nous demande de faire. Non. C'est fou quand je regarde le texte, Dieu a rajouté à celui qui en a le plus, mais pas à celui qui en a le moins. En fait, c'est dans l'intérêt de Dieu à donner à celui qui a déjà et qui gère bien que à donner à celui qui a rien et qui gère pas bien. J'ai écrit ceci par rapport au travail. Dieu ne prend pas soin des paresseux, Dieu prend soin des pauvres. Dieu ne renouvelle pas les forces de celui qui ne fait rien pour qu'il renouvelle son rien. Ah Seigneur, renouvelle-moi s'il te plaît. Renouvelle-moi. Pourquoi faire en fait? Pour que tu renouvelles ta sieste tous les jours? Voici la vérité. Si Dieu si je ne fais pas ce que Dieu me demande de faire, il va confier le fardeau à quelqu'un d'autre. Il va confier son fardeau à quelqu'un d'autre de fidèle. Et un jour, on devra rendre compte devant Dieu. Et le but de ce message, c'est pas de nous culpabiliser, c'est pas de nous décourager, mais c'est vraiment de nous encourager à commencer à travailler à la multiplication, à travailler, à semer, à investir, à développer ce que Dieu a mis en nous, afin d'édifier le corps de Christ et de faire des disciples. On a vu que nous sommes appelés à être un gestionnaire avec sur cette terre et des gestionnaires fidèles. Et maintenant, je veux qu'on voit mon troisième point, c'est le Dieu qui récompense. Il dit, ah. Dieu aime nous récompenser. Quand je regarde mes enfants, j'aime tellement voir c'est leurs yeux qui brillent lorsque c'est souvent les bonbons. Les yeux qui brillent, oh oui papa, merci papa, quand je leur donne, on leur récompense, on leur donne des choses, on les bénit, oh oui papa, merci, merci, merci. Ah oui, tu es le plus beau des papas, tu es le plus merveilleux. Je savais pas que t'en avais plusieurs, donc t'en as un. Tout ça pour dire que Dieu aime nous bénir, nous récompenser. Dieu est bon en fait. Dieu est bon et il aime et il attend juste une chose. Je veux te récompenser. Il va dire à son maître, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. Et Dieu récompense, Dieu est le Dieu qui récompense, je dirai pas tous les versets, mais Dieu est le Dieu qui récompense les ruminateurs de ceux qui le cherchent. Dieu, il veut récompenser ses enfants, il veut récompenser notre foi, il veut récompenser notre travail, il veut récompenser notre courage, il veut récompenser, Dieu est fier de nous. Moi, j'aimerais bien être récompensé par anticipation. Comme quand tu travailles en intérim et on te propose de donner ton argent à l'avance. Comment on dit ça? Te payer en acompte. Pour avoir en acompte, ça marche pas. Dieu récompense. Dieu récompense. Je veux me récompenser. Parce que Dieu récompense ceux qui réalisent qu'ils ont été choisis, qu'ils ont été mis à part, que depuis la fondation du monde et qui ont des talents, qui ont des dons, qui sont les serviteurs du plus merveilleux des maîtres, les doulos, le plus merveilleux de tous les maîtres, c'est Jésus. Il nous fait confiance pour gérer ce qui est à lui. Non mais... Et aussi, il nous récompense lorsqu'on obéit. Quelle grâce, en fait. Quelle grâce. Et Dieu veut notre bien, il croit en nous. Il croit en nous, la confiance en nous. Il veut nous récompenser. Il veut pas que nous le voyons. Et si on commence à le voir, si on commence à ne pas le voir comme cela, alors on prend le risque de céder à la peur. On prend le risque d'enterrer nos dons. Et je suis venu ce matin, ce soir, c'est aujourd'hui, en ce moment même, je suis venu pour te dire que Dieu veut récompenser ta fidélité. Dieu veut récompenser ton travail. Dieu veut récompenser. Dieu n'oublie pas ce que tu as fait hier. Dieu n'oublie pas ce que tu fais aujourd'hui. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie jamais, mais Dieu est fier de toi. Dieu est fier de toi. Dieu est fier du chemin parcouru. Dieu est fier et Dieu, en fait, comme un père qui a réussi son examen, et le père est fier, non pas seulement de l'examen réussi, mais du chemin parcouru aussi. Dieu est fier du chemin parcouru plus que de la destination. Et je crois, et ce matin, ce soir, il y a une mesure de joie que Dieu libère lorsque l'on travaille pour lui. Si j'ai perdu la joie de servir, il y a de fortes chances que je ne sois plus en train de faire fructifier ce que Dieu m'a donné. Est-ce que j'ai perdu la joie de servir Dieu avec passion? Est-ce que je fais fructifier ce qu'il m'a donné? Vraiment? Vraiment? Et il y a une mesure de grâce que Dieu donne. Il y a une mesure de grâce qui dépasse notre propre travail. Il y a une mesure de grâce. Il y a une mesure de charisme. Il y a une mesure de la grâce de Dieu qui dépasse même notre travail. Et j'ai lu ça, j'ai fait, waouh Seigneur. On ajouta un talent de plus à celui qui en avait 10. Pourtant, il n'a rien fait pour le mériter, ce talent. Il n'a rien fait. Il a juste été fidèle avec ce que Dieu lui a donné. Dieu est bon. Il veut nous récompenser. Ça me touchait ce texte. Et je dis, Seigneur, en fait, il y a... Oui, tu veux qu'on travaille ce que tu nous as donné. Mais il y a quelque chose par-dessus que tu veux nous donner. Il y a quelque chose qui ne dépend pas de notre travail. Il y a quelque chose de surnaturel que Dieu veut nous communiquer, qui doit prendre place dans nos vies. Quelque chose, c'est le talent supplémentaire. C'est ce que Dieu donne à ce serviteur parce qu'il a été fidèle. Mais il a pas mérité ce talent-là. Il n'a pas mérité ce sac d'argent-là. Mais la grâce. La grâce. Alors que parfois on dit, Seigneur, pourquoi tu me permets ça? Pourquoi, Seigneur, ça a l'air trop difficile, mais je pense que je vais pas y arriver, etc. Dieu est dur envers moi parce que il me demande ceci, il me donne cela. On semble les exigences de Dieu parfois trop élevées, mais on comprend pas que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Parce qu'il veut faire de nous des enfants matures. Et non pas des enfants pourris gâtés. Alors que je vais terminer, il y a tu portes en toi la semence de la multiplication. Tu portes en toi la semence de la multiplication. Et je ne sais plus où je l'ai entendu, peut-être que c'est Pasteur Romaric qui l'avait dit en moment de prière, je ne sais plus. Mais tu portes en toi la semence de la multiplication. Et je crois vraiment que c'est important de réaliser que, imaginez, vous avez une petite graine dans vos mains. Et là, c'est plutôt un gland que je tiens dans la paume de ma main. Et il est là. Et je dois m'en occuper. Je dois travailler avec ça. Je dois m'en occuper. Mais aujourd'hui, je dois en faire un chêne. Mais aujourd'hui, c'est juste une semence. Et le seul problème, c'est que j'ai pas la certitude, en fait, que ce gland devienne un chêne. Parce que face aux intempéries, face à plein de choses, face à la sécheresse, face au feu, face aux problèmes climatiques, est-ce que vraiment, à la déforestation, est-ce que vraiment mon gland va devenir un arbre? Est-ce que vraiment il va devenir un... Est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr de vouloir prendre ce risque-là, donc je le prends et je le mets dans un tiroir. Et cette semence, parfois, c'est nos dons et nos talents que nous avons enfouis à l'intérieur de nous. Et cette graine, c'est ce que Dieu a déposé en nous. Cette graine, c'est un arbre potentiellement qui est à l'intérieur de nous. Malheureusement, bien souvent, on le fait mourir avant même qu'il existe. Parce que sous prétexte qu'on a peur de ne pas y arriver. Face aux difficultés de la vie. On préfère parfois ne rien faire et se comporter en tant que victime qu'être acteur du changement. Mais je parle à quelqu'un ce soir et je parle à moi-même. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Parce que il y a en toi, il y a en moi un potentiel. Il y a en toi, il y a en moi. Tu portes la semence de la multiplication. Il y a un trésor qui semble peut-être insignifiant à tes yeux, peut-être insignifiant, mais auquel il y a un potentiel extraordinaire que Dieu a déposé, un potentiel de multiplication. Tu portes en toi la semence de la multiplication. J'ai tellement été béni par ce message. Je disais, Seigneur, Combien je veux aussi moi-même me repentir. Combien je veux réaliser que c'est pas que arrêter de dire oui ce que j'ai est insignifiant. Non, ce que tu as est c'est peut-être une graine, mais elle peut devenir un arbre et cet arbre peut avoir aussi des graines et peut avoir des glands et ces glands peuvent tomber par terre et faire d'autres arbres et de façon multipliée. Il n'y a pas de limite avec ce que Dieu peut faire avec ça. Seigneur, change ma façon de penser. Change ma façon de penser. Aide-moi à dire je veux travailler à la multiplication. Aide-moi. Je veux travailler à ce que Dieu a déposé en moi. Je veux faire fructifier. Je veux arrêter d'ensevelir ce que Dieu m'a donné sous des dizaines d'excuses. Et alors que j'appelle l'équipe de louanges, est-ce que tu ressens l'urgence du Saint-Esprit? Tu ressens l'urgence du Saint-Esprit à faire multiplier, à faire fructifier ce que tu as reçu. Nous devons un jour rendre des comptes devant le trône de Dieu. Donc il est urgent de faire appel au Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, à faire fructifier ce que Dieu nous a donné. Et à travers ce simple message, je veux t'encourager ce soir. Passons ensemble de la constance à la multiplication, à la fidélité. Commençons à travailler fort avec ce que Dieu a mis en nous, à investir, à semer pour ce que Dieu nous a confié. Refusons la paresse spirituelle, refusons l'immobilisme, refusons la paralysie spirituelle. Refusons la peur de l'échec. Refusons qui nous empêche de faire ce que Dieu nous demande. Réalisons que Dieu nous fait confiance. En tant que personne, mais aussi en tant qu'Église, Dieu nous fait confiance. Dieu a placé un trésor en moi, en nous.